Hello, bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicol, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel enregistrement et dans ce nouvel épisode du Magicien et des interviews du lundi. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sophie ou Socha, tarologue sur Instagram. J'ai l'habitude de nommer mes invités maintenant par leur compte Instagram, mais c'est vrai que tu as un prénom et un nom. Je te laisserai te présenter tout à l'heure. J'ai eu envie de t'inviter sur cet épisode, premièrement parce qu'on s'est déjà connus diverses occasions, notamment sur le Tarot Festival l'année dernière où tu es venu tirer les cartes. Et cette année, on en parlera à la fin de l'épisode, mais tu renouvelles l'expérience dans un autre poste, mais plutôt là de formation. Et ta pratique du tarot, elle est diverse, variée. Tu t'es formée sur les deux tarots, le type Rider-Waite et le type Marseille. Aujourd'hui, ta pratique, elle va un petit peu se tourner vers le tarot de Marseille, mais tu es aussi installé à ton compte, donc tu es entrepreneur, hein, disons, tu as une entreprise avec le tarot du côté du Pic Saint-Loup. Donc, pour ceux qui habiteraient autour de Montpellier, la Socha est dans votre région. Voilà, moi j'aime bien ta pratique douce, tranquille. C'est l'image que tu donnes en tout cas sur les réseaux sociaux. Tu te formes aussi au tarot psychologique et au tarot projectif. En tout cas, tu vas nous expliquer ta pratique, mais tu as une pratique vraiment d'un tarot qui va nous aider à trouver des réponses et d'avancer sur la compréhension de soi, vraiment. Je ne sais pas si c'est le bon terme pour le tarot psychologique, mais tu vas nous en dire plus. Voilà, donc je vais te laisser la parole et ça me fait très plaisir de t'accueillir sur Le Magicien. Bienvenue à toi, Socha.
Merci Fabienne, merci pour ton invitation. Je suis très contente moi aussi voilà, de faire ce podcast avec toi et je te remercie pour ta présentation de moi et de ce que je fais. C'était plutôt très juste. On m'appelle Socha sur les réseaux mais aussi dans la vie, dans des groupes d'amis. Mais mon nom civil c'est Sophie Robles. J'ai la quarantaine et je suis installée en région Grand Pic Saint-Loup, donc entre Montpellier et les Cévennes, dans un petit village médiéval avec mon compagnon et mes animaux, qui sont aussi importants dans ma vie, au même titre que le tarot. Et oui, c'est vrai que j'ai voilà, une approche du tarot psychologique et projectif. C'est un petit peu les deux adjectifs que j'ai gardés au fur et à mesure en fait, de ma pratique, voilà, de ce qui m'a nourrie. Je suis tarologue installée depuis janvier 2021. Avant ça, j'ai été 20 ans salariée. Et c'est vrai que tarot est rentré dans ma vie de façon assez discrète en fait, dans un premier temps. Et puis j'ai eu en 2016 un gros changement, un énième gros changement dans ma vie. J'en ai eu pas mal. Et je pense que j'ai eu à ce moment-là besoin de m'occuper de moi, de me plonger à l'intérieur de moi et de faire un gros travail d'introspection de façon douce, discrète. Le tarot est arrivé à moi. Ça s'est imposé, en fait. Je me suis mise à chercher un peu des choses sur le tarot. Et moi, je connaissais le tarot de Marseille. Je connaissais pas d'autres tarots. C'est celui que j'avais croisé dans ma vie, dans le passé, en fait. Et puis, je trouvais pas de contenu, de choses. Ce que je trouvais me semblait confus, très opaque. Et du coup, dans mes recherches, j'ai fini par découvrir le Rider-Waite-Smith. Tu disais que j'utilise les deux. Et en fait, je suis tombée sur une vidéo d'Emmanuel Higère qui expliquait que le Rider-Waite-Smith, c'était le tarot le plus connu dans le monde et que c'était un système. Et en fait, son approche, là par contre, ça m'a vraiment parlé. Donc, j'ai débuté mon apprentissage du tarot par le Rider-Waite-Smith à travers l'approche d'Emmanuel Higère. Et puis, je suis revenue au tarot de Marseille après, en fait, par des lectures comme La Voix du Tarot de Jodorowsky, par une formation avec Carlotta de Harpastrega, qui était vraiment sur le tarot de Marseille, et puis ensuite les livres de Corinne Morel, qui du coup est psychologue et également tarologue, et a fait beaucoup d'ouvrages sur le tarot de Marseille. De fil en aiguille, je me suis retrouvée à m'inscrire à sa formation de psychotarologue que je suis en train de suivre du coup pour être certifiée psychotarologue. Voilà, tout ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure. Et voilà, avec une professionnalisation qui s'est fait aussi petit à petit. En fait, j'ai été invitée à faire un stand de tirage du tarot en 2019 sur un festival écoféministe à Montpellier. Et je pense que c'est là que j'ai eu le déclic où je me suis dit, c'est ça que je veux faire en fait vraiment comme métier, quoi. Et voilà, j'ai lu le livre Devenir tarologue, j'ai suivi aussi voilà des petits ateliers sur entreprendre en libéral puisque j'étais salariée depuis toujours en fait. Donc il y avait voilà toute cette nouveauté d'être entrepreneur et qui s'imposait et qui était un gros défi. Mais voilà, j'ai fini quand même
Par sauter le pas.
par sauter le pas, par laisser mes CDD renouveler sans cesse. J'avais des CDD dans la fonction publique qui étaient renouvelés tous les ans voilà depuis des années. Et voilà, j'ai fini par en 2001, ça a été en 2021, ça a été l'année charnière où j'ai vraiment lâché pour me consacrer que au tarot.
Super. Un parcours tout
Voilà.
en aisance, mais qui n'a pas dû être si facile que ça. Mais effectivement, ce que tu disais très justement sur le fait que tu as dû passer par le Rider-Waite pour comprendre le tarot et revenir après au Marseille. Je rencontre, moi, dans ma formation, beaucoup de personnes qui font ce parcours-là, parce qu'il y a quand même en France un vrai amour du tarot de Marseille, disons. Il y a vraiment quelque chose de très particulier en France avec ce tarot-là. Beaucoup de gens sont attirés par ce tarot et par l'histoire de ce tarot et par tout ce qu'il représente, en fait, je pense, en termes culturels aussi. Je ne sais pas si c'est un petit peu pour ça aussi que c'est un tarot qui t'attire.
Oui, je pense que ça joue beaucoup. Il y a voilà toute une histoire, tout un bagage en fait culturel. Enfin, pour moi, le tarot de Marseille, enfin en tout cas celui qu'on appelle le tarot de Marseille, les tarots anciens, les tarots historiques, ont cette espèce d'empreinte d'être en parallèle de l'histoire de l'humanité. Mais c'est aussi le cas du Rider-Waite-Smith. En fait, il y a des personnes qui vont être tout l'un ou tout l'autre. Il y a des personnes qui n'aiment pas le tarot de Marseille parce que les représentations médiévales les rebutent et puis aiment le côté très intuitif du Rider-Waite-Smith où tout est illustré de ses nettes. Et c'est vrai que du coup, pour avoir des intuitions, des choses comme ça spontanées, c'est un excellent outil. Moi, j'aime les deux parce qu'en fait, pour moi, ils s'utilisent pas forcément de la même manière. En tout cas, moi, je les utilise pas de la même manière. Je fais pas les mêmes tirages avec un tarot de Marseille, avec un Rider-Waite-Smith. Ça dépend voilà de la thématique, ça dépend de la personne aussi. Le tarot de Marseille, pour moi, oui, il y a cette espèce d'aura. Mais je pourrais pas choisir, en fait, tu vois. En disant ça, je me rends compte que j'aime aussi énormément la Rider-Waite-Smith. Pour moi, le travail d'illustration qu'a fait Pamela Coleman-Smith, qu'on oublie souvent, cette femme qui a illustré le Rider, et qui, en fait, a créé quasiment de toutes pièces, Emmanuel en avait parlé, hein.
Dans son épisode, ouais.
Et j'adore aussi, je trouve que c'est... Et puis, en fait, c'est le Rider-Waite-Smith qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de tarots contemporains qui sortent, il y a plein d'artistes qui peuvent s'accaparer ce système-là et qu'on peut trouver pour toutes les sensibilités de tarot. C'est vrai que le tarot de Marseille va rester dans des canons où c'est moins facile peut-être d'en sortir. Et le Rider, voilà, a cette force-là.
Oui, de pouvoir être ouvert au monde contemporain.
Et puis de pas rebuter. Moi, la première, je voulais apprendre le tarot de Marseille et puis au début, ça me semblait vraiment trop complexe. Et le Rider-Waite-Smith a voilà cette capacité de démystifier un peu tout ça, de rendre accessible. Et puis quand on a un petit peu pratiqué, je trouve que du coup on peut plus facilement peut-être revenir au tarot de Marseille en étant moins intimidé et en ayant moins l'impression qu'on va pas y arriver, que c'est trop compliqué.
Super. Comment on peut résumer ta pratique aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes? Vers quoi tu t'es tournée justement? Parce qu'il y a plusieurs pratiques hein, dans l'entreprise du tarot. Moi, par exemple, je fais pratiquement que de la formation et maintenant je suis en train de me tourner sur de l'événementiel. Qu'est-ce que tu aimes dans ta pratique d'entrepreneuse?
Je propose du coup des consultations, des séances tarot, des consultations individuelles, des petits ateliers en petits groupes ou des cours particuliers un petit peu à la carte. Et puis je fais un peu aussi d'événementiel. J'aime bien moi être aussi sur des événements, même en entreprise. Là, je vais en faire un à la fin du mois. où une entreprise fait une soirée bien-être au travail et ils ont eu envie voilà, de faire venir quelqu'un pour faire tirer les cartes aux gens. Quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé être prof. Le tarot, au-delà de l'utiliser en consultation, j'aime beaucoup le décrypter, l'analyser, comprendre tout ce qu'on peut faire avec. Et j'aime transmettre ça parce que ça me passionne et j'adore ça. Du coup, voilà, le fait de transmettre à des personnes qui ont envie de se nourrir de ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'ai envie de développer. Et puis ensuite, j'ai pas une pratique en fait radicale dans le sens où même si mon approche est plutôt psychologique et projective, il y a aussi cette ouverture en fait entre guillemets divinatoire. Pour moi, divinatoire n'est pas un gros mot et n'est pas forcément de la voyance. Je trouve que c'est cette idée en fait d'imaginer des possibles, d'imaginer comment peut évoluer une situation, une relation, et que ça n'empêche pas Pour moi, en fait, les personnes qui tirent les cartes, elles doivent garder leur capacité à agir, garder le pouvoir sur leur vie et leur libre arbitre. Et je trouve que vouloir essayer de deviner comment peut évoluer quelque chose, une situation, une relation, ça n'empêche pas, en fait, de se dire qu'on a la main si c'est fait, voilà, sans tomber sur une interprétation gravée dans le marbre, en fait.
Ouais, tu as tout à fait raison. Et de plus en plus, moi, dans ma pratique, je ne vais pas définir mon tarot. Après l'avoir tourné dans plein de sens, notamment par rapport au festival, la difficulté, c'est de présenter le tarot festival comme étant un festival. C'est pas le jeu de tarot, les cartes, parce que pour présenter, par exemple, à la presse, là, en ce moment, on travaille un partenariat, justement, donc pour présenter le festival à un public non averti. C'est difficile d'expliquer justement ce que c'est que ce tarot, comme je l'appelle peut-être moderne, c'est-à-dire celui qui n'est pas le tarot prédictif. Moi, j'ai trouvé ce mot-là, c'est-à-dire que, OK, la divination, oui, bien sûr, du moment qu'on fait du tarot, on fait de la divination. C'est ça qui donne le piment aussi, un peu au fait de tirer les cartes. Enfin, à mon sens, hein, il y a toujours ça.
En tout cas, il y a une demande. Moi, je vois bien que les personnes qui viennent me voir en consultation ont quand même toujours envie de voir ce que les cartes racontent comme possible,
Ouais.
comment ça peut évoluer. Donc, je pense qu'en fait, on peut le faire très bien si c'est voilà, entouré d'autres éléments qui permettent aussi à la personne ben, de mettre toutes les chances de son côté pour que l'évolution aille dans le sens qu'elle voudrait.
Tout à fait. Et moi, c'est vraiment, je dis, tant qu'on ne fait pas de prédiction, c'est-à-dire une prédiction enfermante, c'est-à-dire prédire, c'est-à-dire il va t'arriver ça. Dès qu'on y met le conditionnel, c'est plus une prédiction, c'est une possibilité. Et donc, c'est vrai que rien qu'en utilisant le conditionnel, quand on propose quelque chose, on se met à l'abri justement de quelque chose qui pourrait être un peu enfermant pour le consultant, parce que ça va vite, hein, de pouvoir dire. Enfin, quand on tire les cartes, c'est vrai qu'on a vite tendance à se dire, waouh, c'est ça, c'est ça. Enfin voilà, c'est vrai qu'on pourrait se laisser en happer et entraîner à faire des prédictions. Je sais pas ce que tu en penses.
Oui, je suis d'accord. Après, des fois, c'est aussi ce que les personnes aimeraient. Moi, je me dis qu'il y a des collègues qui font de la pure voyance très bien. Les personnes qui vont préférer en fait se laisser porter par une prédiction vont aller vers ces personnes-là. Moi, c'est vrai que je crois beaucoup à cette dimension psychologique d'archétypes du tarot qui viennent faire travailler l'inconscient, véhiculer quelque chose. Que le tarot, c'est un langage qui nous parle, qui parle à notre inconscient et qui nous permet de prendre conscience de choses qu'on a en nous, d'analyser ce qui se passe en nous, notre personnalité, nos comportements, de cartographier un peu notre âme. Et moi, je me sens plus à l'aise en tout cas de proposer ça parce que je pense que c'est comme ça que je l'ai utilisé pour moi aussi. En fait, c'est ce qui m'a apporté à moi dans ce que je transmets aussi en consultation. C'est ce que ça m'a apporté. Et je trouve que l'intérêt, c'est que ça fait garder le pouvoir. C'est en tout cas pour moi plus fluide de pas être dans quelque chose de trop radical parce que ça dépend aussi tellement de l'attente de la personne. Voilà, c'est toujours un petit peu flou, en tout cas pour moi, d'être tout l'un ou tout l'autre.
Tout à fait, c'est pas évident à expliquer et on est un peu toujours dans le flou, effectivement. Est-ce que du coup tu as une pratique à partager? Moi j'ai retenu aussi le terme projectif dans le terme du tarot, de ta pratique du tarot. J'ai connu moi des tarologues projectifs, on en a parlé dans l'épisode avec Caroline, Caro et le tarot. Avec Caro, cette technique que moi je n'utilise pas personnellement, ni pour moi, ni pour mes consultants, et que je transmets pas du coup parce que c'est pas ma pratique.
Cette pratique de tarot projectif, tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que ça représente justement dans une consultation? Est-ce que tu l'utilises en consultation ou que pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire en fait, tarot projectif?
Alors, pour moi, le tarot projectif, je l'utilise pour moi et aussi en consultation, voilà, selon un petit peu les personnes que j'ai en face de moi et ce qu'elles sont venues chercher. Il y a le pur tarot projectif, pour moi, c'est avec un tarot contemporain très illustré dans lequel on peut se plonger à travers une description de ce qu'on voit, de tous les détails de la carte et à quel endroit on se verrait dans cette carte, quel personnage on serait et du coup, comment on raconte ce qui se passe. Et je trouve que ça permet à la personne de trouver ses propres réponses presque toute seule. Après, c'est un exercice qui, pour certaines personnes, est très facile et pour d'autres, est très difficile. C'est pour ça que je ne le propose pas toujours. Après, pour moi, il y a toujours une dimension projective de toute façon, dans le sens où, même sur un tarot de Marseille, en fait, c'est des personnages, c'est des entités, des concepts qui viennent parler à qui on est personnellement. Et c'est pour ça qu'il y a des cartes qu'on adore, des cartes qu'on n'aime pas. Et ça, c'est déjà de la projection, en fait. Pas aimer une carte parce qu'elle nous rappelle quelqu'un. Je sais pas, moi, pendant longtemps, j'aimais pas l'empereur parce que pour moi, c'était une figure d'autorité. Et c'était quelque chose, voilà, qui me mettait mal à l'aise. Voilà, je pense qu'il y a toujours quelque chose du domaine de la projection.
Et ça, c'est intéressant. Tiens, je te coupe. L'empereur, du coup, tu disais « je n'aimais pas l'empereur ». Comment tu as intégré cet empereur et comment, du coup, puisque tu dis « je n'aimais pas », comment tu t'es mis à l'aimer ou à l'accepter?
Je pense que c'est vraiment dans le travail que j'ai fait, notamment avec les livres de Corinne Morel, dont je suis la formation de psychotarologue. En fait, elle, dans ses livres, elle propose des exercices comme ça. Et dans ma pratique, en fait, je pense que pour se tirer les cartes à soi, les projections, c'est pas grave, en fait, si on les garde, parce que du coup, on fait une interprétation aussi en fonction de ce qui se passe dans les projections qu'on fait sur les cartes. Mais pour tirer les cartes aux autres, j'ai eu envie, besoin de noter en fait les projections que je faisais, par exemple l'empereur, voilà, quels adjectifs je lui donnerais, à quel personnage réel ou fictif je pourrais l'associer, ce genre de choses. Et le fait de prendre conscience de ces projections, je pense, m'a aidée à les mettre de côté quand je tire les cartes pour les autres. Et c'est intéressant parce que même dans ma propre introspection personnelle, par exemple de l'autorité, je pense que ça a apaisé ce rapport que j'avais à l'autorité, parce que j'ai apaisé mon rapport à l'empereur, et puis qu'aussi, en nourrissant ma pratique avec aussi d'autres approches, eh ben, j'ai associé d'autres mots-clés, des projections d'autres personnes que j'ai pu faire miennes. Enfin voilà, c'est tout un travail comme ça qui se fait, je trouve, au fur et à mesure. Et ouais. Déjà prendre conscience de la projection qu'on fait sur une carte, pourquoi on l'aime pas, est-ce que c'est parce qu'elle nous fait penser à, voilà, à un concept, à une personne. Et d'arriver du coup ensuite à la lire, à l'accueillir, à la recevoir, en se défaisant le plus possible de cette projection qui nous est personnelle, quoi.
J'espère que c'est très clair pour nos auditeurs, mais c'est très intéressant. Alors, une dernière question, du coup, je te mets un peu sur le grill, excuse-moi, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça me questionne, moi, dans ce que j'observe aussi chez moi et chez mes élèves, quelquefois. Est-ce que du coup, tu me dis, bon, j'ai fini par intégrer, enfin pas par intégrer justement, oui, intégrer cet empereur et ce que je projetais dans cette figure d'autorité. Est-ce que tu l'aimes mieux aussi parce que est-ce que tu as intégré ton propre empereur? Tu vois, parce que le tarot pour moi vraiment, il vient nous chercher dans tous nos archétypes et donc des fois une carte comme ça nous dérange. Où on n'aime pas parce qu'on a un souci avec ce qu'elle représente à l'intérieur de nous.
Oui, complètement. Mais je pense que pour moi, le tarot sert clairement à ça. En tout cas, peut servir à ça de façon hyper efficace. Et je pense que oui, en fait, à force de travailler sur les représentations du tarot, par exemple, si on reste sur l'empereur, je pense que ça m'a appris, oui, à accueillir ma propre façon d'incarner l'autorité. Et de par ma nature, c'est plus devenu une force tranquille qu'une autorité radicale, bête et méchante qui donne des ordres et c'est marche ou crève. C'était la vision que j'en avais avant parce que je pense que c'est l'autorité que j'ai pu subir avant dans ma vie. Et le fait du coup de me l'approprier en travaillant sur les projections que ça me renvoyait, J'en ai fait du coup une projection maintenant qui ressemble plus à comment moi j'incarne l'autorité, comment moi je donne ça au monde qui m'entoure, aux gens que je côtoie. Et ça a changé du coup sa couleur en fait.
Tout à fait. C'est la richesse, je trouve, moi, des tarots illustrés, tu vois, qu'il n'y a pas forcément dans le Marseille, mais de toutes les représentations, par exemple, de l'empereur dans tous les tarots illustrés qu'il y a aujourd'hui, je trouve que du coup, il y a une richesse d'interprétation et de projection, puisque chaque illustrateur aura, chaque créateur aura projeté sa propre vision. L'empereur, c'est une carte que j'aime beaucoup, parce que moi, l'empereur, pour moi, il me donne de la force, justement, tu vois. Enfin, il y a quelque chose qui représente, quelque chose sur lequel je peux m'appuyer, tu vois.
Oui, il y a une forme d'ancrage en fait.
Ah ouais, mais c'est vrai que c'est une de ces cartes ambiguës, hein, qui est vraiment, il y a la justice aussi comme ça.
Je vois souvent voilà, les deux couleurs, les gens qui adorent la force. Moi, j'adore la carte de la force et ça a toujours été.
Ouais.
Il y a des gens qui voient ça comme quelque chose où il y a beaucoup de contraintes.
Ouais.
La tour ou la maison de Dieu, c'est encore pire.
Tempérance, il y a des gens qui n'aiment pas tempérance.
Je pense que c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. En fait, en tarot psychologique, on le fait beaucoup. Voilà, de voir quelle carte on aime, quelle carte on n'aime pas et pourquoi. Et tu parlais des tarots illustrés qui, du coup, donnent une richesse. Mais du coup, il y a aussi déjà la projection de l'artiste qui a fait ce tarot contemporain.
Oui.
Et c'est vrai que moi, je trouve que la richesse, c'est vrai du coup, mais c'est aussi la richesse du tarot de Marseille à l'inverse. C'est que si on prend en tout cas un tarot de Marseille vraiment très classique, le canon qu'on voit un peu qui vient du Paul Marteau des années 1930, eh ben il est dépouillé au maximum de projections personnelles d'un artiste qui a sa sensibilité, qui a mis sa sensibilité personnelle dans l'empereur. Et du coup, l'empereur du Marseille est dépouillé de ça. Et voilà, ça peut aussi permettre d'y mettre plus facilement vraiment ce qu'on ressent spontanément, sans être influencé par une ambiance, par un décor. Ce fond blanc du tarot de Marseille, voilà, peut paraître un petit peu froid, un petit peu clinique, mais apporte aussi cette neutralité et qui fait qu'on s'accroche juste à, voilà, au personnage qui est dessiné de façon peut-être du coup plus simpliste qu'un tarot contemporain. Mais c'est pareil, ça apporte, je trouve, cette neutralité qui permet de voilà, de voir ce qui se passe d'un point de vue purement archétypal, sans influence extérieure.
C'est passionnant, mais on va avancer un petit peu dans cet épisode. Merci en tout cas pour ton partage sur ta pratique du tarot, notamment du tarot de Marseille, puisque moi je suis un peu novice et débutante dans ce tarot-là. Est-ce que tu as, du coup, à tous mes invités qui viennent sur ces interviews du lundi, je vous propose de partager une pratique avec nos auditeurs pour partager justement une façon de faire avec le tarot qui ne ressemble peut-être pas juste à je tire les cartes, tout simplement. C'est vrai que ça pourrait être, c'est pour ouvrir un petit peu la vision de la pratique du tarot, de ce que peut nous apporter ce jeu. Sacha, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu as envie de partager?
Ben, du coup, je pourrais parler d'un petit exercice ludique que moi j'aime bien faire. Alors avec le tarot de Marseille, mais on peut le faire avec un Rider-Waite-Smith, mais je trouve que ça marche bien avec le tarot de Marseille. En fait, moi, en bonne geek du tarot, voilà, j'aime bien voir tout ce qu'on peut faire et tout ce qui peut se passer entre les cartes. Et du coup, j'aime bien prendre mon tarot de Marseille avec les arcanes majeures et aussi tous les personnages de cour, c'est-à-dire tous les cavaliers, tous les valets, toutes les reines et tous les rois, et faire un tirage avec toutes ces cartes-là. Du coup, on a déjà un petit peu plus de cartes en plus que juste les arcanes majeures. Et puis, c'est tous des personnages. C'est tous des personnages où, éventuellement, il y a quelques animaux, mais globalement, elles sont toutes plus inspirantes. On arrive plus à se projeter dedans, en tout cas plus facilement que les mineurs illustrés du Marseille, qui, du coup, oui, là, pour le coup, sont trop abstraites. Et tous ces personnages, du coup, quand on tire deux cartes et qu'on les pose côte à côte, on a bah, deux personnages posés voilà, l'une à côté de l'autre. Et l'idée, c'est d'essayer de les faire dialoguer, d'observer déjà leur position, puisque dans le tarot de Marseille, il y a des personnages, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont face à nous, puis il y en a beaucoup qui regardent soit à gauche, soit à droite, ou qui se dirigent vers la gauche, qui se dirigent vers la droite. Et du coup, dans ce tirage à deux cartes, on peut se retrouver avec deux personnages qui se rejoignent, deux personnages qui se tournent le dos, deux personnages qui se regardent, qui se tendent un attribut, un objet. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer spontanément, voilà, avec nos propres projections aussi. Donc, c'est intéressant aussi sur ce qui sort de notre bouche. Qu'est-ce que ces deux personnages peuvent se raconter? Qu'est-ce qu'ils peuvent s'apporter? Et voilà, imaginer leur discussion, ce qu'ils se diraient, ce qu'ils penseraient l'un de l'autre. Voilà, je trouve que c'est à la fois ludique et que ça crée en plus un lien. Moi, je trouve qu'en faisant ça enrichit vraiment le vocabulaire qu'on a. Pour moi, le tarot, c'est un langage. Et plus on pratique, plus on enrichit le vocabulaire de ce langage. Et du coup, faire dialoguer des personnages, le lien qu'on fait entre ces deux personnages, c'est aussi un lien qu'on crée avec eux. Et comme si c'était un peu des amis, des gens qu'on apprend à connaître à travers leurs rencontres. C'est un petit exercice ludique que je trouve intéressant de faire pour se familiariser avec le tarot de Marseille, avec les personnages du tarot de Marseille, et s'approprier son jeu de façon personnelle.
Super. C'est intéressant parce qu'en plus, c'est vrai que, comme tu l'as très bien dit, cette histoire de tarot langage, c'est-à-dire d'avoir des mots quand on interprète, de trouver effectivement cette richesse du vocabulaire que l'on va employer quand on va parler des cartes, est souvent un petit peu dit compliqué quand on parle des cartes de cours. Enfin, moi, je trouve que dans l'apprentissage, c'est souvent là que les personnes qui veulent apprendre le tarot rencontrent une difficulté. Et dans ton exercice, justement, bah, ça permet à ceux qui veulent rentrer dans le tarot par une autre porte que simplement l'apprentissage, disons, on va dire bête et méchant, parce que celui-là, il ne fonctionne pas. Enfin, apprendre des mots-clés, apprendre par cœur un livre, ça ne marche pas. Enfin, c'est pas ça, apprendre le tarot, même si on aimerait que ça soit comme ça, apprendre et puis après, on sait. C'est un premier exercice, je trouve hyper intéressant parce que ça doit aider à libérer les premières interprétations après, tu vois, aussi. D'avoir des mots, de faire raconter des histoires, parce qu'en fait, finalement, interpréter un tirage, c'est raconter une histoire.
Oui, ben, en plus on a voilà des personnages, donc c'est vraiment comme une histoire qui se déroule. Et puis les livres pour apprendre le tarot peuvent être bien pour démarrer, mais je trouve que pour arriver du coup à pas rester trop collé à ça, et ben voilà, essayer de faire raconter des choses aux personnages, de les faire se rencontrer, de voir lesquels s'aiment bien, lesquels s'aiment pas, et puis lesquels se ressemblent. Tu disais voilà que souvent en formation les personnages de cours sont compliqués. Mais en fait, on peut faire des associations. Par exemple, pour moi, en tout cas dans le tarot de Marseille et dans le Rider aussi d'ailleurs, la reine de bâton, elle est proche de l'impératrice. La reine de coupe sera peut-être plus proche de la papesse. La reine d'épée aussi. Enfin, toi, ça, je trouve que, en fait, je trouve que de les appréhender tous comme des personnages, en tout cas dans le tarot de Marseille. Je trouve que voilà, entre eux, ils se racontent. Moi, je trouve en tout cas qu'ils se racontent plein de choses. En tout cas, ça nourrit aussi l'intuition, l'imagination personnelle. Enfin, en tout cas, ça permet de s'entraîner, voilà, à laisser s'exprimer notre intuition, notre imagination. Et c'est une façon du coup plutôt sympa, je trouve, pas trop scolaire
Tout à fait.
d'apprendre. Ça enrichit les tirages ensuite. Le fait voilà, de les connaître comme ça, ces personnages, ben, dans un tirage quand ils reviennent. En tout cas, si c'est un tirage pour soi, voilà, ça vient raconter aussi tout ce qu'on a pu imaginer comme dialogue avant en
Avant.
s'entraînant.
Mais je te remercie. C'est un exercice que je vais noter, que je reprendrai peut-être pour moi aussi dans mes partages, que je tenterai pour moi-même aussi. Je trouve que c'est intéressant. Merci beaucoup pour ce partage, Socha. On va se diriger tout doucement et aussi rapidement vers la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour ton partage, d'avoir accepté mon invitation. Très heureuse d'avoir discuté avec toi. On peut te retrouver du côté de Montpellier. Donc, hein, si vous êtes sur Montpellier, que vous avez envie de faire un atelier en présentiel, cours particulier, une consultation tarot avec Socha, ou que vous avez envie de la faire venir pour un événement, donc pour tirer les cartes, hein, donc tu fais aussi de l'événementiel du côté de Montpellier. Allez-y, les yeux fermés. Et puis, on va te retrouver au Tarot Festival cette année aussi. Tu reviens, je l'ai dit un petit peu en début de cet épisode, ben pour partager justement un stage de 2 jours sur le Tarot de Marseille. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ce stage, donc 2 jours de formation sur le Tarot de Marseille?
Eh bien oui, du coup, ouais, je serai de nouveau présente au Tarot Festival en septembre prochain. Je suis super contente que tu m'aies renouvelé ta confiance suite à ma venue l'année dernière où j'ai tenu un stand de tirage. Et là, je suis en train donc de préparer un stage de 2 jours sur le Tarot de Marseille avec l'envie d'appréhender le Tarot de Marseille dans son entièreté et justement pas de le cantonner comme c'est trop souvent le cas que aux arcanes majeures, hein, même s'il y a des super tirages à faire avec les arcanes majeures. Donc c'est un stage où la première journée sera essentiellement tournée sur les arcanes majeures du tarot de Marseille avec la traversée en fait de ce que j'appelle le chemin du mât dans tous ces arcanes majeures et de la pratique de tirage qui marche bien selon moi avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et puis sur la deuxième journée, on va ouvrir aux arcanes mineurs, aux personnages de cour qui, pour moi, justement, sont peut-être même encore plus faciles à appréhender que les mineurs numérotés. Et pareil, voilà, arriver à intégrer en fait ces mineurs, ces personnages de cour dans des tirages où on va mettre aussi les mineurs soit en même temps, soit séparément. Enfin voilà, il y aura un mélange de théorie et de pratique pour pouvoir en 2 jours avoir une vision d'ensemble du tarot de Marseille, d'essayer de, voilà, de démystifier tout ça, de le dépoussiérer aussi. Voilà, pour moi, c'est vraiment un outil qui a pouvoir, une puissance énorme. Et voilà, je suis hyper contente du coup de pouvoir proposer ce stage Tarot de Marseille pour donner un temps pour se pencher sur tout ça.
Avec ceux qui voudront bien te suivre, qui voudront bien nous suivre. Ça sera ces stages un petit peu longs, j'en parlerai. J'en parle de toute façon parce qu'à l'heure où sortira cet épisode, les inscriptions auront débuté. Donc, vous pourrez toujours vous inscrire et je pense qu'en barre de cet épisode, il y aura un lien pour aller effectivement rejoindre ce stage-là ou prendre une entrée pour le Tarot Festival qui se tiendra le 16 et 17 septembre à Lectour dans le département du Gers. Et le stage se tiendra le jeudi et vendredi. Donc, c'est un stage qui se tiendra juste avant le festival, comme tous les stages que je propose cette année, pour pouvoir justement profiter de 2 jours de stage et après profiter de 2 jours sur le festival sans rien louper en fait. Voilà, les personnes qui veulent s'inscrire au stage, vous pouvez passer 2 jours sur le stage et 2 jours ensuite après sur le festival avec des conférences, le marché, etc., etc. Donc voilà, si ça vous branche de rencontrer Socha au festival, eh bien tout sera dans le lien qui sera dans la barre d'infos. Je mettrai aussi ton site, hein, bien sûr, ton site internet.
Mais en tout cas, sur Instagram, parce que c'est sur Instagram que je suis, je pense, le plus présente. Et après, sur Instagram, il y a un lien vers mes prestations.
D'accord. OK. Je mettrai le lien de ton Instagram en barre de cet épisode, si vous voulez en savoir plus sur ce chat. Je te remercie beaucoup. Et je vais te laisser juste le mot de la fin, si tu as une petite chose à rajouter ou simplement on se quitte.
Je ne sais pas. Merci Fabienne encore une fois pour cette interview, ce podcast. C'était une première pour moi, donc c'était aussi une belle expérience. Et pour ta confiance, pour toutes ces choses que tu mets en route, que ce soit le podcast, que ce soit Explore la semaine dernière et le Tarot Festival. Voilà, tu cristallises plein de choses autour du tarot. Et moi, pour ma part, je suis ravie d'avoir pris ce train que tu emmènes. Et puis, j'ai hâte qu'on se revoie au Tarot Festival et qu'on fasse plein de choses ensemble autour de cet outil que je trouve passionnant quand on a envie, en tout cas, de plonger en soi, de faire, et pas que de s'amuser aussi.
Il nous tarde de nous retrouver au festival et de boire un coup.
Aussi, oui, complètement.
Merci Socha.
Merci.
Je te souhaite une belle soirée à vous tous. Merci d'avoir écouté cet épisode et puis on se retrouve très très vite sur le podcast.
Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!